Verneuil Davray dit-on sur le DAB+.
Sur le DAB+.
You want to go on a contract?
If the price is right, I'll talk to anybody.
Yeah?
Sure.
And you mean to tell me your way is nice and clean and nothing fucking shows up?
Well, it may show, my friend, but it's quiet. It's not messy. It's not as noisy. It's not,
you know. Yeah, but how the fuck do you put it together, like, you know what I'm saying?
Yeah.
Oh, there's always a way. There's a will in the way, my friend.
Yeah, son, sloppy off a Percocet. Last time I ran up on him, he was like a nervous wreck. Nervous wreck. You the type to wear a turtleneck. I ain't choked him out, doggy face ain't even purple yet. Take him to the fire pit and watch how much burn he get. Trash compact the body and compress him like a tourniquet. Motherfuckers jelly like the four tops, Bernadette. Baptism of fire, these motherfuckers burn to death. Bing monster got his commissary in his palms. The guard speak like it's commentary on the Psalms. Chopping off his legs and we burying his arms. Kaczynski in his prime cause I'm burying the bombs. The low been around like this was a zone four. Polite before I kill, I greet you with bone jaw. Why would I respond to someone who types all? My head is waiting for you, they turn your lights off.
Dismembering bodies, did that turn your stomach?
I remember having pizza one day while we were doing something like that.
Pizza in one hand, chainsaw in the other?
No, I didn't like chainsaws. See, chainsaws are messy. All you get is little, all over me I have these little pieces of meat. Now that's a pain in the neck.
À Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin, Andréane Mélard.
RFI Matin commence, c'est maintenant. Bonjour à vous, bienvenue. On va rester ensemble jusqu'à 10h avec aujourd'hui ces frappes qualifiées de défensives par l'armée américaine et menées dans le sud de l'Iran. Que comprendre de ces derniers événements alors qu'on nous présentait ces dernières heures des avancées dans les négociations entre Téhéran et Washington, des avancées vers un protocole d'accord de paix. Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, sera en ligne avec nous dans un petit quart d'heure pour décrypter tout ça. On en parle aussi dans votre journal. Bonjour Pierre Boudias.
Ah bonjour Andréane, bonjour à tous.
Les États-Unis frappent donc l'Iran, mais assurent qu'un accord est toujours possible.
Washington évoque des frappes défensives sur des sites d'installation de missiles et des navires iraniens. Pas de réaction du côté des autorités iraniennes. Elles assurent être déterminées à poursuivre les négociations. Nous serons en ligne avec notre correspondant à Téhéran. Un cessez-le-feu qui n'en a toujours que le nom au Liban. Israël annonce qu'elle va intensifier son offensive dans le pays afin d'écraser le Hezbollah. La milice chiite embraye et rejette une nouvelle fois tout désarmement et toute négociation directe. À peine inauguré, le panthéon de la nation ukrainienne, déjà controversé, voulu par Volodymyr Zelensky, le site a accueilli hier sa première dépouille, celle d'Andriy Melnik, figure majeure du nationalisme ukrainien, accusé de collaboration avec les nazis. À suivre également la suite de la crise politique au Sénégal, après le limogeage du premier ministre Ousmane Sonko. On sera aussi en France, où les températures s'affolent et font peser peser des risques sur les nourrissons. Et puis on vous fera revivre les adieux pleins d'émotions de Gaël Monfils à Roland-Garros. La Monf s'en va après 19 participations au Grand Chelem parisien.
Frappé à nouveau par les États-Unis.
Après un week-end de déclarations optimistes sur des percées diplomatiques entre Téhéran et Washington, l'armée américaine annonce avoir ciblé la République islamique la nuit dernière. Frappe défensive sur le Pentagone, elles ont visé des sites de lancement de missiles dans le sud de l'Iran et des navires américains qui installaient des mines dans le détroit d'Ormuz, selon le haut commandement des États-Unis. On va aller prendre la température à Téhéran où on vous retrouve Siavosh Ghazi. Siavosh, les autorités iraniennes ne semblent pas vouloir entrer dans une logique d'escalade ce matin.
Tout d'abord, les médias iraniens ont affirmé que hier après-midi, l'Iran avait abattu un drone furtif ennemi au-dessus du golfe Persique. Un message pour dire que les drones n'avaient pas l'autorisation de survoler le golfe Persique. Et c'est ensuite vers minuit qu'il y a eu ces frappes contre le port de Bandar Abbas et l'île de Larak qui est juste en face. Visiblement, ce sont les systèmes antimissiles qui avaient été utilisés pour détruire le drone qui ont été frappés par l'aviation américaine. On devrait en rester là puisque il y a la délégation iranienne dirigée par Mohammad Bagher Ghalibaf, le chef du groupe des négociateurs, accompagné par le ministre des Affaires étrangères et surtout le président de la Banque centrale au Qatar. Toujours, les négociations se poursuivent. Et ce matin, à Téhéran, il n'y a pas eu d'autres réactions. Donc on ne devrait pas aller plus loin. Les négociations devraient permettre de conclure un accord dans les prochains jours, comme cela a été affirmé par le secrétaire d'État américain Marco Rubio.
Siavosh Ghazi depuis Téhéran, merci à vous. La diplomatie américaine minimise également la portée de ses frappes ce matin. Le secrétaire d'État Marco Rubio assure qu'un accord avec l'Iran est toujours possible dans les prochains jours. Ces frappes américaines et leurs conséquences, on y revient juste après ce journal avec votre invité Andréane, le chercheur Sébastien Boussoir.
Dans ce contexte, Pierre, Israël semble bien décidé à poursuivre coûte que coûte sa guerre contre le Hezbollah.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou annonce une intensification à venir des opérations au Liban pour écraser le mouvement pro-Iran, ce sont ses mots. Déclaration immédiatement suivie d'effets, intense journée de bombardements sur la ville côtière de Tyr et des dizaines d'autres localités menacent également de reprendre les frappes sur la banlieue sud de Beyrouth. Situation inquiétante, donc à 3 jours de nouvelles négociations entre délégations libanaises et israéliennes à Washington, ce sera le 29 mai, d'autant, Paul Ralifet, que le Hezbollah hausse également le ton.
La pression militaire israélienne est dirigée en premier lieu contre le Hezbollah, mais aussi contre les autorités libanaises pour les pousser à prendre des mesures concrètes en vue de désarmer le parti chiite. Le Hezbollah se livre à un harcèlement des troupes israéliennes dans le sud du Liban à travers l'utilisation à grande échelle de drones à fibre optique et des tirs de roquettes. En parallèle avec l'intensification de ces attaques, le secrétaire général du parti a exclu dimanche tout désarmement de sa formation et a une nouvelle fois rejeté les négociations directes avec Israël. Naïm Hassem a durci le ton en menaçant de faire tomber le gouvernement libanais et de combattre toute tentative de le désarmer de force. Ces propos surviennent après des informations selon lesquelles les États-Unis auraient proposé aux dirigeants libanais de créer une brigade spéciale de l'armée libanaise dont la mission serait d'affronter le parti chiite. Les dirigeants libanais sont pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, ils subissent de fortes pressions israéliennes et américaines pour s'engager davantage sur la voie des négociations. De l'autre, il se heurte à un refus catégorique du Hezbollah de rendre les armes. Dans ce contexte, la polarisation risque d'atteindre un point critique marqué par la paralysie des institutions et l'éclatement de l'armée libanaise. Paul Khalifeh, Beyrouth, RFI.
Menace de frappe et chantage russe en Ukraine.
Les mots utilisés par Volodymyr Zelensky alors que Moscou appelle ressortissants étrangers et diplomates à évacuer Kiev avant de nouveaux bombardements. Le Kremlin annonce son intention de viser des centres de décision et des installations militaires sans donner de délai sur l'expiration de cet avertissement. Ces 4 ans de guerre en Ukraine auront réveillé le nationalisme du pays. Dernier exemple en date avec la création à venir d'un panthéon de la nation ukrainienne. Un site censé célébrer les grandes figures historiques du pays. Le président Zelensky en a posé les bases hier lors de l'inhumation d'Andriy Melnyk, une figure importante du nationalisme ukrainien, mais une figure controversée pour ses liens avec l'Allemagne nazie, Lucas Lazo.
Les dépouilles d'Andrei Melnik et son épouse sont célébrées par une ultime messe à la cathédrale patriarcale de la résurrection du Christ de Kiev. Honneur militaire, chant religieux, cette reconnaissance officielle satisfait Oleksandr Alfurov, directeur de l'Institut ukrainien de la mémoire nationale.
Pendant 35 ans, cela n'a pas été fait. 35 ans depuis l'indépendance de l'Ukraine. Or, nos héros, c'est notre identité. Des hommes comme Andrei Melnik, colonel de l'armée de la République populaire ukrainienne, combattaient déjà les forces russes il y a un siècle. Le retour de ces grandes figures est donc aussi une motivation pour nos soldats. Cela leur montre qu'ils ne sont pas la première génération à défendre l'Ukraine.
Mais Melnik reste controversé. Dirigeant de l'UM, une organisation nationaliste ukrainienne, il a collaboré lors de la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie contre l'URSS avec l'espoir de libérer l'Ukraine du joug soviétique.
Quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, beaucoup de responsables politiques imaginaient que l'Allemagne nazie allait pouvoir détruire l'Union soviétique. Mais Melnik lui-même, lorsqu'il a compris que le nazisme était une idéologie inhumaine par nature, a abandonné toute idée selon laquelle l'Allemagne pourrait vaincre l'Union soviétique.
Le rôle exact de Melnik dans les violences commises contre les communautés juives et polonaises en Ukraine pendant cette période reste débattu parmi les historiens, mais cette controverse pèse moins aujourd'hui dans le discours officiel ukrainien porté par le sursaut patriotique né de l'invasion russe. À Kiev, Lazo RFI.
L'heure est à la recomposition politique au Sénégal.
Après le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko par son ancien allié, le président Bassirou Diomaye Faye, après la démission du président de l'Assemblée nationale proche d'Ousmane Sonko, les députés se réunissent en plénière. Aujourd'hui, ils doivent élire un nouveau titulaire au perchoir dans un parlement dominé par le PASTEF. Ousmane Sonko semble tout désigné pour le poste à condition de regagner son siège de député décroché lors des dernières législatives en novembre 2024, correspondance de Léa Lisa Vesterov.
Ousmane Sonko, fondateur et leader incontesté du PASTEF, a toute la légitimité pour occuper le poste du président de l'Assemblée nationale. Tête de liste du PASTEF aux législatives de novembre 2024, c'est lui qui a conduit les 130 députés de son parti au Parlement. Il faut distinguer la légitimité de la légalité, nuance cependant le professeur de sciences politiques à l'Université de Saint-Louis, Maurice Ndiagdion, pointant une possible impossibilité juridique pour Ousmane Sonko de récupérer son siège de député. Car au moment de son élection, Ousmane Sonko est déjà Premier ministre, une fonction incompatible avec celle de député. En ayant renoncé à son mandat électif sans jamais l'exercer, Ousmane Sonko aurait perdu la possibilité de le récupérer, selon certains juristes. C'est aussi l'avis de la première force d'opposition au Parlement, Takou Wallou, qui dénonce un possible coup d'État institutionnel, je cite, si le PASTEF, largement majoritaire, devait choisir de réintégrer Ousmane Sonko coûte que coûte et de l'élire pour diriger le perchoir. À la tête du pouvoir législatif, Ousmane Sonko sera en mesure d'impulser l'adoption de nouvelles lois, mais aussi de bloquer l'action gouvernementale s'il devait faire le choix de poursuivre une stratégie de confrontation avec le chef de l'État. Léa Lisa Vesterov, Dakar, RFI.
Hier, le président Diomaye Faye a dévoilé le nom de son nouveau premier ministre. Amadou Alaminou Mohamed Lo est nommé au poste économiste de formation au profil technocratique. Il est proche à la fois du chef de l'État et d'Ousmane Sonko.
Le thermomètre s'affole toujours en France.
La journée d'hier a été la plus chaude jamais enregistrée pour un mois de mai à l'échelle de la métropole. Ce mardi devrait être pire avec des températures dépassant les 35 degrés par endroit. Un épisode exceptionnel lié au réchauffement climatique et qui pèse sur la santé des plus vulnérables, notamment celle des bébés, Laurence Théo.
Un tout petit peut voir sa température interne grimper dangereusement en quelques minutes, avertit Cindy Crouzet. Elle est pédiatre dans le sud de la France.
La peau des enfants, elle est plus fine et fragile. Elle absorbe plus rapidement la chaleur du soleil, ce qui augmente du coup le risque de déshydratation et d'insolation, même à l'ombre et partant couvert. Les nourrissons, ils ne régulent pas leur température corporelle aussi efficacement que les adultes. En fait, ils transpirent moins, ce qui les expose à un risque accru de coups de chaleur.
Le nourrisson ne peut pas exprimer verbalement son inconfort, donc il faut être très vigilant avant qu'il ne soit trop tard.
Quand on arrive aux signes cliniques que l'on peut voir, c'est-à-dire les yeux qui se cernent, l'enfant fatigué, l'enfant tout mou, là on est déjà dans un risque aigu où il faut consulter, quoi.
Alors pour éviter cela, la pédiatre rappelle des mesures de prévention.
Donner de l'eau souvent, même si l'enfant ne réclame pas. donner le sein, évidemment, si l'enfant est allaité. Éviter les déplacements aux heures les plus chaudes de la journée. Hein. Rafraîchir les endroits où l'enfant va se trouver. Donc, fermer les volets le jour, aérer la nuit, utiliser des ventilateurs.
Un point souvent négligé concerne la voiture. En été, la température à l'intérieur d'un véhicule stationné au soleil peut dépasser les 50 degrés en quelques minutes. Cindy Crouzet insiste, il ne faut jamais laisser un enfant seul dans une voiture, même pour quelques instants.
Et puis, Pierre, les adieux à l'arène de Gaël Monfils hier.
À l'arène de Roland-Garros, dans laquelle le tennisman français a joué hier pour la 19e et ultime fois défait au premier tour par son compatriote Hugo Gaston. La Monf, comme on le surnomme, est apparue très émue. Esteban Mirales, il a pris le temps de remercier toutes ceux et toutes celles qui ont compté pour lui au cours de ses 22 ans de carrière.
got more, I got no need. I got nothing I could be. I got things that you should see. I went riding all around, let the past soak up the sound. Tried to picture it going down. Come on away from me. Is it done? 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 Felt to pull, I pulled away. We got nothing that I'll say. Still I feel it's not this way. Waiting, nothing's going down. Can't seem to get it off the ground. Seeing if I come around. Come on away from me. Is it done? Come on away from me. Come on away from me. Is it done? Come on away from me. Is it done? Or is it you? Is it you?
Un truc, tout leur matériel leur sert à se mettre sur la même longueur d'onde que les gens qui écoutent cette fréquence. Il ne reste donc plus qu'une solution, il faut diminuer le volume de votre radio. Le mieux serait de la débrancher.
Débrancher la radio? Oh nom de Dieu, il a perdu la tête!
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9.
Je t'en prie, je ne plaisante pas, il faut que tu éteignes ta radio!
Mais enfin, pourquoi veux-tu que je fasse ça ?